Pierre-Olivier Gouanneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de France Biotech. On va parler avec vous eh bien, de cette année pour les biotech françaises et puis des perspectives. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que 2014, ça a été une année à nouveau sur cet écosystème des biotechnologies, société de biotechnologie, une bonne année?
Oui, c'est une excellente année d'un écosystème qui parvient à la maturité. Alors, bien sûr, avec des hausses spectaculaires, hein. Cinq plus belles valeurs, cinq plus belles hausses du marché sont des biotech, et dans les 10 premières, il y a énormément de biotech, je crois qu'il y en a 8. Mais au-delà de cela, on voit surtout des sociétés qui arrivent à maturité, qui ont des pipelines avancées, des beaux sujets de développement avec des acteurs internationaux, des deals aussi en cours. Donc ça a été une très bonne année. Et dans le même temps, on voit aussi une maturité du marché, des nouveaux analystes qui apparaissent, des nouvelles équipes, et donc une professionnalisation et une explication de notre secteur qui devient de plus en plus professionnel.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aussi que, au niveau des activités traitées par ces sociétés de biotechnologie, il y a un éventail assez large, de plus en plus large?
Alors, c'est une richesse, mais c'est évidemment en même temps une complexité, hein, parce que si vous prenez la cinquantaine, bientôt la soixantaine et peut-être 70 d'ici la fin de l'année, sociétés cotées, elles appartiennent à 70 univers technologiques différents que l'on rassemble sous le mot science de la vie, santé, etc., tout ce qu'on veut, mais n'empêche que ce sont 70 technologies différentes. Et ça rend effectivement l'analyse compliquée. Et donc, il est important que chacun prenne le temps de les étudier, de regarder ce qu'elles sont, quel marché elles adressent, les besoins financiers spécifiques qu'elles ont. Pour un secteur thérapeutique donné, ce n'est pas la même chose que dans l'autre. Les valorisations ne seront donc pas les mêmes aussi. Enfin, tout ça est à appréhender avec ce qu'on appelle le stock picking, pour bien regarder ce qu'elles font, où elles en sont, où elles vont.
C'est-à-dire l'investisseur doit être discriminant et ne pas identifier toutes les biotechnologies dans un seul bloc.
Oui, c'est une clé. Alors évidemment, après, on peut aussi avoir une stratégie de portefeuille en disant, je ne regarde pas trop, j'en prends un peu de partout. Ceux qui ont fait ça ont gagné. Mais enfin, sur une vision, je dirais, plus intéressante, il faut vraiment regarder ce qui se passe, regarder par qui ces sociétés ont été financées dans le passé, avec qui elles ont travaillé. Nous sommes dans des sociétés qui collaboreront énormément, avec quelles recherches publiques, avec quelles recherches privées, ont-elles des accords internationaux et avec qui, où en sont-elles dans leur développement, phase 1, phase 2, phase 3, et quelles sont leurs perspectives de marché, de positionnement dans une indication thérapeutique. Ce n'est pas le cancer, ce n'est pas le cancer du poumon, c'est une sous-indication d'une sous-indication. Et regardez tout cela. Et effectivement, ça prend du temps. Et donc, nous, notre recommandation, c'est de vraiment regarder chez qui on investit.
Est-ce que ça s'adresse donc forcément à des investisseurs avertis ou parce qu'on voit beaucoup dans le grand public des investisseurs actionnaires individuels s'intéresser à ces biotechnologies est-ce que finalement ça s'adresse à tous les investisseurs?
Alors, ça s'adresse par définition à tous les investisseurs, puisque nous sommes publics et non pas réservés à une catégorie d'investisseurs une fois qu'on est coté. En revanche, il faut que ces investisseurs-là, eh bien, je dirais, passent un peu de temps, regardent, nous comprennent et interpellent. Nous sommes assez communicants, et si on regarde bien par rapport à d'autres secteurs d'activité, comme la vérité n'est pas dans nos chiffres d'affaires, qui sont nuls ou quasi nuls, mais dans nos découvertes, dans nos progressions. De regarder ce que nous disons, est-ce que nous sommes en temps et en heure là où nous l'avons dit, est-ce que nous avons des belles perspectives, avec qui nous travaillons. Encore une fois, ça mérite des approches différenciées. Alors c'est vrai que c'est compliqué pour le petit porteur, mais il faut qu'il prenne le temps de le faire. Quant à l'investisseur plus institutionnel, lui commence à avoir un œil, je dirais, exercé à Paris, à défaut d'être spécialiste, il commence quand même à avoir un certain œil exercé. Et il est capable de juger d'un délai d'une phase 3, d'un coût d'une phase 2, et de pouvoir comme cela, eh bien, j'irais avoir un étalon et choisir.
Puis voir les stratégies justement du management des entreprises sur d'aller au bout des phases 3, de trouver des partenaires, vraiment de choisir par ce biais-là aussi.
Tout à fait. Sachant que ce qui est également complexe à voir, c'est que au bout de ces développements, il peut y avoir une acquisition. On a vu la semaine dernière aux États-Unis Teva, qui est un acteur géant, rigoureux dans ses choix, qui a acheté 3 milliards d'euros une société qui est dans la maladie de Huntington, plutôt maladie très orpheline, avec un bonus de 40% par rapport au dernier cours de cotation, donc vraiment des choses importantes. Mais on voit aussi des deals de licence, Selective Pfizer, Adocia Lilly, avec une nouvelle histoire Lilly. Donc il y a différentes modalités je dirais, de développement, il appartient aussi aux actionnaires de s'intéresser à quelle est la vision et jusqu'où veut aller la société. Est-ce qu'elle veut aller en partenariat, se vendre ou seule? Quand on regarde, c'est assez intéressant. Hein, Gilead, qui est bien connu, est rentré dans le top 10 des boîtes de biotech en termes de chiffre d'affaires dans le monde. Elle faisait 10 milliards de chiffre d'affaires en 2013, elle en fait 25 milliards en 2014. Elle est à plus de la moitié du chiffre d'affaires de Sanofi. Et si elle continue avec cette vitesse de développement, elle la double dans 2 ans. Donc, il y a aussi des stratégies autonomes de biotech. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire que les pharma dominaient et qu'aux États-Unis, en tout cas, c'est les biotech qui vont bientôt dominer.
Alors justement, il y a des comparatifs avec le Nasdaq, hein, puisqu'on a vu des courbes spectaculaires sur les biotechnologies au Nasdaq, hein, au-delà de l'aspect spéculation, hein, qui peut exister ici ou là. On voit une vraie différence de valorisation et on a vu des entreprises françaises de biotechnologie se dire finalement, il faut que j'aille aussi aux États-Unis. Alors, il y a des projets aux États-Unis, mais la cotation, la levée de fonds peut être aussi un argument.
Alors, il est certain qu'à partir du moment où dans la santé, vous adressez un public mondial, il est légitime d'avoir des actionnaires du monde entier. Et quand votre premier marché est le marché américain, c'est aussi légitime d'aller y lever des fonds, surtout quand ces fonds sont, on va pas dire en quantité infinie, mais sont dans une proportion d'un multiple d'au moins facteur 10 par rapport à ce qu'on peut trouver en Europe. Donc, il est certain qu'à partir du moment où vous avez une belle science, une belle histoire US, enfin histoire au sens scientifique du terme à raconter, les acteurs américains qui sont tous des acteurs de spécialité, c'est-à-dire qu'ils ne font que ça avec des équipes dédiées et depuis longtemps, eh bien c'est une sorte de crédibilité de les avoir dans son tour de table. Et puis souvent, ils sont d'ailleurs aussi investisseurs en capital risque. Ils sont ce qu'on appelle crossover. Et donc, ils ont vraiment une mentalité d'investisseurs de moyen terme. Et c'est assez intéressant de pouvoir faire cette expérience-là. Alors après, le risque serait que l'herbe soit trop verte aux États-Unis et que nos sociétés y basculent complètement. Mais en même temps, ce mouvement est légitime.
Un mot de la fin peut-être, j'ai vu France Biotech alerter les pouvoirs publics sur cet écosystème, sur la recherche, sur le fait qu'il y avait des dangers. En un mot, quelle est la problématique ?
Ce n'est pas tellement un danger, c'est que je dis que l'écosystème, dans l'analyse, dans le nombre d'intervenants, dans l'expertise et aussi un certain nombre de médias, doivent être un peu plus nombreux pour nous critiquer, nous observer. Parce que nous sommes de plus en plus nombreux, nous prenons une place importante et il y a un petit retard de l'écosystème et il se serait dommage qu'il ne soit pas à la hauteur de nos espérances si nous voulons avoir dans le long terme une place de Paris forte, crédible.
Merci d'avoir été avec nous, Pierre-Olivier Guano.